aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, mardi 10 juillet 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir en Guinée, grogne sociale contre la hausse des prix de l'essence à la pompe. Au Cameroun, au moins 3 policiers tués depuis dimanche en région anglophone. République démocratique du Congo, le principe d'une visite du secrétaire général de l'ONU est maintenu, même si elle avait été déclarée inopportune. Le président américain Donald Trump commence une tournée européenne, d'abord à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN, puis en tête-à-tête à Helsinki avec Vladimir Poutine. En Coupe du Monde, la France affronte la Belgique aujourd'hui en demi-finale. Ce sera dans le journal de la Coupe. Tout d'abord, le journal. En Guinée, des milliers de manifestants étaient dans les rues de Conakry pour dire non à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le gouvernement a fixé le prix du litre à 10 000 francs guinéens, soit une hausse de 2 000 francs guinéens. Les organisations syndicales et la société civile demandent son annulation. On fait le point avec le correspondant de VOA Afrique à Conakry, Zakaria Camara.
Ils viennent de toutes les couches socio-professionnelles du pays. Tous sont sortis pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Alpha Limou, informaticien.
À 10 000 déjà, la vie est très chère en Guinée, tout le monde le sait. Et actuellement, tous les taximètres ont augmenté le prix du transport. Ça craint déjà, il y a l'anarchie.
L'anarchie, c'est aussi les mesures d'accompagnement qui n'ont pas suivi l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Pour ce jeune leader, le peuple ne peut pas continuer à serrer la ceinture. Badra Koné.
Ce qu'on n'a pas compris qui nous a amené à cela, c'est le fait que Monsieur le Président de la République, le premier exemple du pays, n'a pas accepté de diminuer son train de vie et le train de vie de sa suite, qui est le gouvernement, j'en passe. Le peuple ne peut pas, capable de payer le litre à 10 000 francs au jour d'aujourd'hui.
Ils étaient plusieurs milliers de Guinéens à marcher à Conakry à l'appel de Debout Citoyen, un mouvement des organisations de la société civile guinéenne. Le gouvernement guinéen, lui, a dit qu'il ne peut plus continuer à subventionner le carburant. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Sénégal, les avocats du maire de Dakar, Ali Fassal, et de l'ancien ministre Karim Ouad accusent le pouvoir d'utiliser la justice pour les éliminer de la course à l'élection présidentielle de 2019. Ces deux opposants sont condamnés pour corruption. Le pouvoir du président Macky Sall se défend de toute implication dans les poursuites les visant. Au Nigeria, le parti au pouvoir, APC, assure qu'il restera soudé derrière le président Muhammadu Buhari, alors que la présidentielle est prévue pour février 2019. Pourtant, la semaine dernière, des parlementaires de la mouvance présidentielle ont annoncé la création d'une dissidence dénonçant la catastrophe monumentale qu'a été, selon eux, la présidence Buhari depuis 2015. En face, plus de 30 partis, dont le principal parti d'opposition, le PDP, ont fondé lundi une alliance pour faire front contre la candidature du chef de l'État. Toujours au Nigeria, des recherches se poursuivent pour retrouver 21 personnes disparues après le chavirement d'un bateau ce week-end sur une rivière dans le nord du pays. La situation reste tendue dans la région anglophone du sud-ouest au Cameroun. 3 policiers ont été tués depuis dimanche par des présumés séparatistes armés. Abdourahmane Dia.
Pour la première fois, des affrontements opposent depuis hier des séparatistes aux forces de sécurité à Boya, capitale du Sud-Ouest. Ces affrontements ont contraint la majeure partie des habitants à rester cloîtrés chez eux. 2 policiers ont été tués hier dans la zone sud de la capitale par des terroristes, a déclaré un responsable de Boya. Un autre policier a été enlevé et on est sans nouvelles de lui, a-t-il ajouté. Et dimanche à Kumba, une localité située entre Boya et Mamfé, un commissaire de police avait été froidement abattu près de chez lui. Des tirs ont de nouveau été entendus dans la matinée de ce mardi à Boya, une ville de 100 000 habitants, quadrillée par un grand nombre de militaires camerounais depuis le début de la crise anglophone fin 2016. En s'attaquant à Boya, les séparatistes tentent de s'emparer de cette ancienne capitale d'un État anglophone qui avait vu le jour sous mandat britannique entre 1922 et 1961.
L'insécurité aggrave la situation alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel, notamment dans plusieurs pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Réunis à Niamey par les ministres de l'agriculture de l'UMOA, ils se sont surtout alarmés de la situation d'environ 3,5 millions de personnes vivant en insécurité alimentaire au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal, qui ont besoin d'une assistance alimentaire inconditionnelle et immédiate entre juin et août, période de soudure. Ils ont également insisté sur l'insécurité civile persistante dans le bassin du lac Tchad, le Liptako Gourma et dans le centre du Mali. En République démocratique du Congo, le principe d'une visite du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine est maintenu, d'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères congolaise. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après le communiqué du ministère des Affaires étrangères, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, sont les bienvenus à Kinshasa à une date à convenue de commun accord. Le communiqué de la direction du protocole d'État a ajouté que des consultations sont en cours pour harmoniser les agendas. Dimanche, Kikaya Bin Karumbi, conseiller diplomatique du président Joseph Kabila, avait indiqué que cette visite était inopportune pendant cette période préélectorale. Fin mai, Leila Zerougui, la chef de la MONUSCO, a annoncé cette visite disant qu'elle devrait avoir lieu ce mois-ci, en juillet. Le Conseil de sécurité a renouvelé en mars pour un an le mandat de la MONUSCO avec pour priorité la protection des civils et l'appui aux élections prévues le 23 décembre. Fin janvier, le président Joseph Kabila a critiqué la MONUSCO demandant qu'elle quitte le pays au plus tard en 2020. La mission onusienne en RDC compte quelque 17 000 casques bleus pour un budget annuel d'environ 1,150 milliards de dollars.
Au Mozambique, 4 personnes ont été tuées et décapitées samedi lors d'une attaque imputée au groupe islamiste qui sème la terreur depuis plusieurs mois dans le nord du pays. C'est ce que rapporte l'AFP citant des témoins. La police s'est refusée à confirmer les faits. L'ONU dénonce de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui met principalement en cause les forces gouvernementales, estime que les exactions peuvent s'apparenter à des crimes de guerre. Selon les investigations conduites par l'ONU entre le 16 avril et le 24 mai, au moins 232 civils ont été tués et de nombreux autres blessés dans des attaques menées par les forces gouvernementales. Le rapport précise que les forces de l'opposition ont également mené des attaques faisant des victimes civiles. Nous reviendrons sur le Soudan du Sud en seconde partie d'émission. Et Zimbabwe, la police s'est réjouie du calme qui règne dans le pays à 3 semaines des élections générales. Elle fait état de nettement moins d'incidents violents liés à la campagne que lors des scrutins de l'ère Mugabe. Les élections présidentielles et législatives prévues le 30 juillet sont les premières organisées au Zimbabwe depuis la démission en novembre de M. Mugabe, lâché par son parti et l'armée. Après 37 ans de pouvoir, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa lui a succédé et fait figure de grand favori.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a estimé ce mardi que sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine à Helsinki pourrait être plus facile que le sommet de l'OTAN à Bruxelles ou même sa visite au Royaume-Uni au moment où il embarquait pour une tournée européenne de plus d'une semaine. Jack Aristide.
Le président Trump, qui voyage accompagné de son épouse Melania, doit dans un premier temps se rendre en Belgique pour assister au sommet de l'OTAN mercredi et jeudi à Bruxelles, un sommet qui s'annonce tendu. Monsieur Trump reproche à ses alliés de l'OTAN de ne pas augmenter suffisamment leurs dépenses militaires, un message qu'il a encore martelé ce mardi matin. Nous avons beaucoup d'alliés, on ne peut pas abuser de nous, l'Union européenne ne peut pas abuser de nous. Nous avons perdu 151 milliards de dollars dans le commerce avec l'Union européenne l'année dernière. Et en plus de ça, nous dépensons au moins 70% pour l'OTAN et franchement, ça les aide plus que nous, a-t-il déclaré. Je pense que le fait de bien s'entendre avec la Russie, de bien s'entendre avec la Chine, de bien s'entendre avec les autres est une bonne chose, a-t-il ajouté. Chère Amérique, considérez mieux vos alliés. Après tout, vous n'en avez pas tant que ça, a pour sa part lancé le président du Conseil européen, Donald Tusk.
conflit en Syrie, au moins 27 combattants des forces pro-régime ont été tués dans le nord-ouest du pays par une attaque nocturne menée par des factions rebelles. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. En représailles, le régime de Bachar al-Assad et son allié russe ont mené des raids aériens et des tirs d'artillerie contre les terroristes rebelles de la province d'Idleb, tuant 4 civils selon l'OSDH. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco présentée par Raïssa Girondin.
En Côte d'Ivoire, plus de 1800 milliards de francs CFA d'investissements privés ont été obtenus entre 2015 et 2017, selon le directeur général du CPC, le guichet unique de l'investissement dans le pays. Emmanuel Esmelessi a ajouté que plus de 111 000 emplois ont été générés sur la même période. L'Union européenne alloue 90,5 millions d'euros à des programmes de gestion des flux migratoires africains. Selon la Commission européenne, les trois nouveaux programmes concernés en Afrique du Nord renforceront la gestion des frontières et protégeront les réfugiés et les migrants contre les trafiquants. La Banque mondiale fait un don de 35 millions de dollars au Tchad. Ce fonds va appuyer les efforts d'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures, fiscales et douanières, renforcer les capacités institutionnelles des ministères en charge des finances et du budget, du pétrole et de l'énergie, et des télécommunications et nouvelles technologies de l'information. La Chine promet 20 milliards de dollars de prêts et 124 millions de dollars d'aide financière à plusieurs pays du Moyen-Orient, dont la Syrie et le Liban. Le président Xi Jinping affirme que le but est de relancer la croissance économique de la région. Beijing s'investit au Moyen-Orient avec, notamment pour objectif, son projet de nouvelle route de la soie qui vise à relier la Chine à l'Europe via un réseau de routes, voies ferrées, ports, sites énergétiques et qui passera par le Liban.
Le journal de la Coupe du Monde, à mes côtés en studio, Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Alors c'est le grand rendez-vous à Saint-Pétersbourg, coup d'envoi à 18h temps universel de la première demi-finale de la Coupe du Monde.
Eh oui, France-Belgique, l'attaquant Kylian Mbappé est bien titulaire pour ce match. La pépite de 19 ans qui soignait des douleurs au dos animera bien l'attaque avec Antoine Griezmann et Olivier Giroud dans un 11 classique pour la France. Blaise Matuidi est de retour. Côté belge, la seule surprise vient de la titularisation du milieu Moussa Dembélé alors que le défenseur central Thomas Vermaelen est sur le banc en attaque. C'est le trio habituel Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard. A noter que la deuxième demi-finale aura lieu demain entre l'Angleterre et la Croatie. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonjour. La seconde demi-finale de cette Coupe du Monde, l'Angleterre et la Croatie s'affrontent mercredi à Moscou dans un choc de revenants indécis. Championne du monde chez elle en 1966, l'Angleterre avait dû attendre 24 ans pour retrouver une demi-finale de l'épreuve après sa victoire miraculeuse obtenue face au Cameroun de Roger Milla 28 ans plus tard. Revoici les Britanniques aux portes de la finale avec des atouts indiscutables et une adversité moins évidente. On ne cesse de le répéter, l'équipe anglaise est jeune, surtout qu'elle a pu basculer dans la partie du tableau où les adversaires proposés arboraient plutôt un profil de sparring partner. L'effectif anglais est frais et son collectif s'est bonifié sans puiser dans ses réserves. En face se trouve une Croatie au talent individuel et collectif indiscutable, digne héritière de l'école yougoslave, un football capable de briller aussi bien dans le jeu technique au sol que dans les rudes batailles aériennes, avec de surcroît une grande efficacité devant les buts. Mais la Croatie qui a joué deux prolongations difficiles contre le Danemark puis la Russie pourra-t-elle récupérer physiquement? Réponse mercredi soir.
En foot, toujours tremblement de terre, Ronaldo quitte le Real Madrid.
Eh oui, on ne pouvait pas finir sans cette information. 33 ans, 5 ballons d'or et un troisième grand championnat européen dompté. La superstar Cristiano Ronaldo qui quitte l'Espagne et le Real Madrid pour s'engager avec la Juventus Turin. On parle d'un contrat de 105 millions d'euros, ce qui serait qu'il serait payé 30 millions d'euros par an, Morgan.
Le journal de la Coupe, merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgan Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. La grande ville de Boya, région anglophone du Cameroun, est sous tension depuis hier avec des affrontements entre séparatistes présumés et forces de sécurité. Trois policiers ont été tués en zone anglophone depuis le week-end. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint à Yaoundé le docteur Hilaire Kamga. Il lui a d'abord demandé s'il était surpris que ces violences s'étendent à une grande ville comme Boya.
Il n'y a pas de surprise qui tienne, dans la mesure où on a vu l'évolution de la situation sur le terrain et on a vu la radicalisation des positions, notamment Yaoundé qui ne voulait pas entendre parler du dialogue qui était réclamé par la partie anglophone. Et au fur et à mesure, on est parti des glissements des thèses, c'est-à-dire celle de bonne gouvernance vers fédéralisme et ensuite séparatisme et ensuite la militarisation. Donc face à une violence active, on a eu en réponse une violence réactive qui engendre un cycle de violence. D'abord dans les villages et aujourd'hui dans les grandes villes, ça ne nous paraît pas surprenant.
Qu'est-ce que cela peut signifier quand on voit les séparatistes s'attaquer à une grande ville comme Boya? Est-ce que cela traduit une certaine audacité de ces groupes armés quand même?
Non seulement cela traduit une certaine audacité, comme vous le dites, mais surtout ça a une valeur symbolique. Il s'agit de, me semble-t-il, de prouver à l'opinion nationale et internationale que Yaoundé n'a plus la main en matière de contrôle de ces régions. Jusque-là, cette preuve était matérialisée par les ghost towns, c'est-à-dire les villes mortes qui étaient décryptées, qui étaient observées tous les lundis. Maintenant, c'est une attaque, des attaques armées dans la ville. Il me semble que c'est le dernier cran pour montrer effectivement que le glissement vers la guerre civile est en train d'être une réalité si rien n'est fait.
Et justement, ces nouvelles violences interviennent alors que le président Paul Biya vient d'annoncer la date des élections au 7 octobre. Ce sera quand même un des grands sujets lors des débats de la campagne présidentielle.
Il est évident que en annonçant la date des élections pour le 7 octobre, M. Biya a respecté ainsi l'obligation qui lui est faite par le code électoral et par la constitution du Cameroun. Mais en même temps, il place le pays dans une situation assez particulière où on a des régions qui sont pratiquement en quasi-guerre et dans lesquelles on a la prétention de pouvoir organiser des élections qui voudraient porter la qualité d'élection transparente. Donc du coup, il y a là un dilemme, une problématique.
Est-ce que vous pensez que ces élections peuvent justement être organisées dans ces deux régions, vu le contexte?
D'abord, il faut peut-être préciser que, de ma qualité d'expert électoral, moi je suis ce en quoi je peux parler avec assurance, il ne sera pas possible de parler d'élections démocratiques dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, si au rendu en octobre, on est dans la situation qu'on a aujourd'hui. Puisque, à la réalité, les séparatistes ont dit qu'ils ne veulent pas d'élections dans leur région. Et on sait que, quand ils décrètent, ça marche généralement. Ça marche peut-être par adhésion ou par peur, mais dans tous les cas, ça marche. La preuve en est que tous les lundis, il y a la ville morte et personne ne sort, tous les boutiques sont fermées.
Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme pour la démocratie au Cameroun.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur l'accord historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée pour mettre un terme à deux décennies d'état de guerre qui avaient déchiré les deux pays frères. Quelles sont les réactions à cet accord de paix? Le processus ira-t-il jusqu'au bout? Que représentent pour l'Éthiopie les réformes que multiplie le Premier ministre Abiy Ahmed? A-t-il le soutien de toutes les couches de la population éthiopienne? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h10.
Controverse au Nigeria suite à la décision du gouvernement de distribuer plus de 300 millions de dollars aux familles pauvres dans le pays. Il s'agit de l'argent détourné par l'ex-président Sani Abacha pendant les années 90. Les fonds ont été récemment restitués par les autorités suisses. Correspondance de Gilbert Tamba, VOA Afrique à Abuja.
L'argent doit être versé à environ 300 000 ménages, un versement mensuel d'environ 14 dollars chacun. Cependant, les Nigériens se demandent si c'était la meilleure façon de distribuer l'argent et se posent des questions sur les critères du gouvernement pour identifier les foyers dits pauvres au Nigeria, alors que 70% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Stephia Omoezi est comptable dans une ONG locale impliquée dans le développement communautaire.
C'est une bonne chose, mais j'ai un problème. Comment ils identifient un certain nombre de personnes comme pauvres? Est-ce qu'ils vont publier la liste des pauvres pour que nous puissions faire nous-mêmes des recherches indépendantes sur eux? Nous voulons tous ces détails pour se rassurer que ces fonds seront effectivement remis aux pauvres du Nigeria.
Certains veulent que ces fonds soient investis dans les projets de développement en faveur de ces pauvres communautés. C'est le cas de Chambers Umezulike, chargé des programmes à Code, qui vient de rentrer d'une tournée dans les communautés rurales.
Tout d'abord, nous avons sillonné les communautés et cela nous a permis de voir l'état critique des infrastructures dans ces communautés, de la santé à l'éducation et de l'approvisionnement en eau potable. Et plus que ça, donc les communautés ont vraiment besoin de ces services sociaux. La pauvreté domine également dans les zones rurales.
La décision du gouvernement de distribuer l'argent aux ménages dits pauvres ne passe pas aussi facilement chez beaucoup d'autres Nigérians à quelques mois des élections générales et présidentielles de 2019. Ils craignent que le don d'argent puisse être vu comme un effort pour obtenir des votes. Témoignage dans les rues d'Abuja au micro de VOA Afrique.
Because election is
parce que nous sommes à quelques mois des élections et c'est maintenant que vous devez décider de distribuer les fonds détournés par Abacha aux communautés. Pourquoi vous voulez distribuer cet argent à certaines communautés? Pourquoi vous ne faites pas de programme de développement durable ou de la formation des jeunes? Donc, je pense que c'est une motivation politique.
À mon avis, ce n'est pas une bonne décision. Pendant la période électorale, ce n'est pas un fait nouveau et ça ne fait pas de débat aussi de voir nos leaders en train de prendre certaines initiatives en distribuant de l'argent et autre chose aux gens.
Le Parlement nigérien, suite à un débat autour de la question, est resté divisé et a rejeté l'initiative du gouvernement, évoquant des inquiétudes de transparence dans le processus. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Soudan du Sud, les rebelles ont rejeté un plan de paix conclu à Entebbe en Ouganda pour établir Riek Machar dans ses fonctions de vice-président. L'accord était censé mettre fin à la guerre civile, qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis 2013. Plusieurs accords ont déjà été conclus entre les belligérants, mais n'ont jamais été respectés. Est-ce à dire que la paix est impossible dans la plus jeune nation du continent? Idriss Fall a joint à Paris Roland Marchal, directeur de recherche au CNRS.
La paix est possible. C'est d'abord une certaine convergence régionale qui n'avait pas existé auparavant. Béchir, président soudanais, travaillant avec le président ougandais, les Éthiopiens ayant donné tacitement leur accord, les Kenyans étant également d'accord avec la démarche suivie. Donc on est quand même dans une situation qui est un peu nouvelle, qui peut, malgré les désaccords exprimés, souligne que la région, au moins, elle progresse dans sa volonté de paix. Il y a évidemment encore les problèmes, parce que c'est vrai que cet accord peut paraître pour beaucoup de choses un copier de l'accord de 2015 avec des conditions d'application qu'on peut trouver insuffisantes. Riek Machar n'est plus le même homme. Il a échappé à la mort en 2015. Il voit aussi qu'il a été en résidence surveillée de fait plus que de droit en Afrique du Sud. Les choses évoluent lentement et disons ce qui est en train de se passer dans la région peut avoir un impact sur le Sud-Soudan. Maintenant, il ne faut pas se cacher la réalité. C'est-à-dire que c'est des groupes qui ont aussi acquis certains privilèges dans la guerre et qui, évidemment, voudrait bien les voir se renouveler dans un éventuel accord de paix. La route est sans doute encore longue, mais je crois qu'elle reste ouverte.
On a l'impression de faire du surplace parce qu'en 2015, Riek Machar devait devenir vice-président basé à Djouba. Cette fois-ci aussi, c'est le même scénario. Et même s'il revenait à Djouba, quelles sont les garanties qu'ils ne vont pas à nouveau se taper dessus?
Mais vous avez une région d'abord qui converge, alors qu'à l'époque, en 2015, chacun essayait de jouer sa carte contre les autres. Ensuite, vous avez une Éthiopie Éthiopie changée qui veut imprimer une dynamique de paix régionale. Alors, Salva Kiir se rend compte qu'il a épuisé son capital de sympathie dans les capitales occidentales. Je pense qu'ils ont compris qu'ils étaient dans un cul-de-sac. Ces discussions et cet effort, d'ailleurs, où les États-Unis ont joué un certain rôle, laissent augurer un cheminement un peu différent. Pas que ça va être une réussite, mais il faut laisser à la paix une chance, à l'inverse de la formule qui voudrait qu'on laisse à la guerre une chance.
Est-ce que ça va effacer de la suspicion entre les Nuer et les Dinka?
On a tendance à mettre un poids assez unilatéral sur l'ethnicité et pas regarder les vrais enjeux de pouvoir qu'il y a derrière, hein, qui sont là proprement politiques. Donc je ne crois pas qu'on va faire du Sud-Soudan, ni aujourd'hui ni demain, une société. Les gens se feront confiance, s'aimeront les uns les autres comme ça n'existe nulle part ailleurs. L'idée qu'il faut vivre ensemble, c'était quand même la base de leur indépendance et l'existence de leur pays suppose quand même que ces populations acceptent de faire partie, d'avoir un commun dénominateur, d'appartenir au Sud-Soudan.
Le 11 juillet, c'est l'anniversaire de l'indépendance du Sud-Soudan.
Et il n'a pas été fêté, puisque le Sud-Soudan est quasiment un pays ruiné, au-delà de la division mortifère entre ces populations.
Roland Marchal, directeur de recherche au CNRS à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En France, le Forum économique d'Aix-en-Provence a eu lieu pendant 3 jours et a pris fin le week-end dernier. Le cercle d'économistes réunis dans le sud de la France a planché sur des solutions pour préserver un multilatéralisme et libéralisme qu'ils estiment menacés. Parmi les keynote speakers, principaux orateurs de ce mini-sommet de Davos, le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako, il a résumé à Arzuma Compaoré l'essence de son intervention.
J'ai répété ce que mon cinéma veut dire, que ce soit comme ils ont évoqué dans l'entretien, ils ont évoqué En attendant le bonheur, parce que c'était en 2001 où il y avait la question de l'immigration. Et c'était important de noter que déjà 2001, il y avait, les artistes pensaient déjà à ces questions-là. Ça, c'était important de l'évoquer là. Aussi, le film Bamako a été évoqué. Et pour moi, c'était important de dire ce que je considère toujours comme un déséquilibre dans les relations Nord-Sud, parce que il y a des grandes institutions qui existent, que ce soit le FMI ou la Banque mondiale, qui prétendent faire le bonheur d'un continent en imposant un système de développement qui échoue depuis une trentaine d'années, mais qu'on continue à imposer. Et que ce principe, déjà, n'est pas juste. Le fait qu'on ne peut pas intenter un procès réel, sauf c'est le cinéma qui peut le faire. Donc, on est encore dans la fiction.
La question des libertés humaines est très présente dans vos œuvres. Pour vous, l'immigration, il ne faut pas en avoir peur.
On ne peut pas inculquer la peur à une génération. Et c'est ce que l'Europe est en train de faire. C'est d'inculquer la peur aux gens en disant l'immigration va détruire un pays, l'Europe. C'est ça le problème. Donc c'est inculquer la peur. Et la responsabilité d'un homme politique, d'un système politique, c'est quand même d'être capable d'avoir une vision à long terme. Et cette vision à long terme n'existe pas aujourd'hui dans les prises de décision que nous voyons. On voit très bien que très souvent, pour ce qui concerne l'Afrique, ce sont des ministres de l'Intérieur qui se réunissent, assez souvent d'ailleurs, parfois 3 fois par an, il n'y a jamais des ministres de la Culture qui se réunissent. Donc il y a quand même un problème dans ça. Dans ce rapport qu'on a avec un continent, la peur d'un continent, ce n'est pas normal.
Et avez-vous le sentiment d'avoir été compris par tous ces économistes?
Un économiste, ce n'est pas forcément quelqu'un de méchant, hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans le mauvais côté des choses. C'est plutôt des gens qui analysent le monde et qui proposent des choses. Et ça, je pense que ce discours a été quelque part, peut-être, si ce n'est pas entendu, j'étais écouté au moins. Et ça, c'était important.
Abderrahmane Sissako, cinéaste mauritanien. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin. à la présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.